Radio FM est un service mondial de radiodiffusion. Bonjour et bienvenue, nous écoutez donc ce 89.1 MHz en FM et en flux en Angvorbis. Donc c'était inquiète. Nous sommes le samedi 13 décembre 2008. Nos programmes pour cet après-midi à 13h du sport, les résultats sportifs en direct des VCA de l'infirmerie à 15h. C'est du reggae avec Zahra Mahfari. Non, je ne sais pas. Et à 17h FM, merci à l'antenne, à Booster FM sur les 89.1 MHz. Et dans l'immédiat, voici votre magazine culturel que vous attendez tous avec un immense plaisir. Zou. Et c'est quand tu veux, sale bête.
Et vive la
bah voilà, super. Ça, c'était le gag qu'on voulait faire tout
État
à l'heure.
Français, Radiodiffusion Nationale.
Précédemment... dans le supplément week-end.
Pour la petite anecdote, la salle qu'on a réservée au Muay Thai d'Andiagora était munie, c'est vrai, c'est véridique, vous pourrez le vérifier sur le salon, de deux toilettes de chaque côté de la salle. Donc il y avait un accès aux toilettes qu'on a décidé de condamner pour le salon, pour éviter tout petit problème et toute rencontre spéciale dans les toilettes.
Radio FMR présente le supplément week-end, le magazine des cultures geeks, avec du sport, Ultimatum, Das Creek et la participation exceptionnelle de JB.
Ah, ils sont gentils, mais ils sont avant, ils pensent à me nourrir. Résultat, j'ai la chocolatine plein l'air. À la bouche. Une émission sans Thomas qui, lui, se gave, lui aussi, mais de foie gras aux figues, comme quoi. Ça a des avantages, hein, quand même, d'être originaire des Landes, mais néanmoins, on a du sport. Et là, bien sûr. Bonjour, Dus.
Bonjour.
Et tout à l'heure, eh ben, il y aura JB qui sera là. Avec une chronique, ça tombe bien. Et il va parler en plus, pas de n'importe quoi, ce sera Del Boy. Et comme c'est un très très grand spécialiste de l'œuvre de Mike Minor, là, ça ne devrait pas être inintéressant. Ou alors, franchement, c'est qu'il y a un problème. Enfin, ceci dit, plein de choses, il y en a à gaver. Je vous ai promis la semaine dernière le bouquin de Bézian. On n'a pas eu, j'ai pas eu le temps de le lire proprement. Et ça aurait été dommage d'en parler de manière complètement, carrément incomplète. Donc, c'est une impasse qui sera réparée la semaine prochaine. Thomas ne sera toujours pas présent la semaine prochaine, du moins dans les studios. Il sera en direct à Lille, puisqu'il partira chez les Ch'tis, non pas se faire voir, mais pour aller voir, s'il vous plaît. La convention Ankama. Ankama, je rappelle, c'est un éditeur de jeux vidéo extrêmement connu qui s'appelle Dofus. Éditeur aussi de bande dessinée, puisque l'on a parlé très régulièrement aussi bien de Love the Run avec Motafukaz, de leur collection autour du catch et leur collection graphique, et puis aussi c'est eux qui éditent Maliki en bande dessinée, mais accessoirement ben ils vont faire une grande fiesta juste avant Noël, un peu la foire de Lille, mais pas consacrée exclusivement à la vente de frites grasses, mais justement de tout ce qui est contre-culture et bien allumé. Donc ça, on verra ça peut-être avec un direct téléphonique la semaine prochaine. Sinon, la suite, et puis dans 15 jours d'ailleurs, un joli petit cadeau pour vous. Si vous restez à l'antenne, vous ne serez absolument pas déçus. Voilà, j'avais avalé de travers, ça allait pas du tout. Dans les breaking news aujourd'hui, figurez-vous que un site web donc vient de démarrer et vient de se lancer. C'est celui de Dusport avec la programmation musicale du 14-15h qui est déjà présent, mais je n'ai pas sa programmation télé de tout à l'heure. Ce qui est un petit peu problématique.
Ouais, mais faut pas rêver quand même.
C'est Christine qui fait le boulot de mise en page, je suppose. On la salue bien, Madame Dusport, bien sûr. Celle dont la moindre hésitation sur le casting de la première série hollandaise ou allemande venue ne passera pas au travers sans une corvée de vaisselle pour du sport. C'est dire s'il est sous pression et qu'on essaie de faire une émission de qualité, bien évidemment. Ceci dit, qu'est-ce qui est arrivé en kiosque? Oh, ça devrait te plaire, du sport. dossier les jeunes parents.
Ah bah oui.
Avec bien évidemment dessins de Carali, dessins de la Serpe, de plein d'autres. Hein. Bien évidemment, je vais les oublier, Olivier K, Melaka et tous les autres. Du dessin humoristique sur le sujet du jour, les dessins très noirs aussi sur l'actualité plus ou moins immédiate. Tiens, il y a Besson aussi. Oh, super. Bref, c'est noir, c'est crade et ça envoie grave. C'est un mensuel qui est donc en kiosque à 4,50€, le numéro 204, donc de décembre, et consacré exclusivement aux joies et aux délices de la nouvelle pater-maternité. Vous allez voir, c'est trop génial d'avoir un gosse. Et si on passait aux bouquins qui vont arriver chez les libraires, bien évidemment. Je sais, c'est l'approche de Noël. Et là, ce que vous attendez de nous serait plutôt un top, une sortie, savoir est-ce que le prix de la critique est intéressant et tout le reste. Très rapidement, on n'en a pas parlé. Pecchio.
Non, moi j'ai repéré celui-là, là, tu vois.
Oui, mais j'en parle tout à l'heure, figure-toi.
Je sais, je l'ai repéré.
Tu l'as repéré. Pecco, Damien et Fernandez, trois auteurs qui s'unissent pour une brève histoire de l'avenir, d'après le roman écrit par Jacques Attali. Voilà.
Oh là,
on s'inquiète. Jacques Attali, c'est un peu comme Alain Minc. Alain Minc, c'est plutôt le côté droit. Jacques Attali, c'est plutôt le côté gauche, c'est-à-dire des penseurs futuristes, philosophes et margeurs à un nombre incalculable de conseils d'administration de très grosses entreprises. Et qui se sont toujours trompés, en général. Minc étant loin de faire exception à la règle, et Attali non plus. Sauf que Attali, lui, il avait plus l'oreille de Mitterrand, et Minc, celle de Chirac, quoi qu'on dit que Sarko aussi l'écoute bien. L'idée, le scénario, donc, qui est adapté par Pecco, Damien et Fernandez, c'est que tout simplement, en 2020, on explose Jérusalem, et voilà, et comme ça, les trois religions ont le choix, soit se foutre sur la gueule, et on tombe dans la guerre mondiale généralisée et la fin de l'espèce humaine, ou bien vers de nouvelles religions, de nouvelles croyances, et bien évidemment, un nouvel usage des technologies. Je vous en laisse la surprise dans Une brève histoire de l'avenir, qui est déjà édité en librairie. Normalement, c'est un triptyque qui sortira un par an, donc là, par fin 2010, on aura la fin de l'histoire, Une brève histoire de l'avenir en trois tomes. Bon allez, c'est rigolo, mais sans plus, puisqu'on l'a pas lu. D arrive fin janvier chez Delcourt, c'est-à-dire au moment du festival d'Angoulême. C'est Alain Hérol au scénario, avec Mayonara et Le Prévost. Donc inutile de dire que ça castagne, ne serait-ce que au niveau du casting. Ça va arriver bien, ça va arriver chez Delcourt. Et comment dire, c'est une chasse aux vampires. À l'époque de Louis XV.
Ouais, c'est tendance, le vampire, c'est tendance.
Ça a toujours été tendance. De toute façon, à partir du moment où tu as toujours une grande pandémie autour d'une maladie sexuellement transmissible, c'est toujours le thème vampirique qui revient. Donc, à la fin du 19e siècle, par exemple, j'ai oublié. Enfin, ça a toujours été quelque chose qui revenait régulièrement. Et c'est vrai que vampire, bon, après il y a aussi le plaisir et la joie d'offrir, de saigner avidement de jolies filles dans le cou. On parlera tout à l'heure de vampires un petit peu spéciaux justement de ce côté-là. Chez Glénat, le groupe Glénat va fêter ses 40 ans en 2009. Ils avaient commencé avec un magazine qui s'appelait Schtroumpf, c'était les cahiers de la bande dessinée. Je vous laisse imaginer ce que c'était. Au départ, donc, c'était une toute petite librairie un petit peu généraliste qu'avait plus ou moins monté Jacques Glénat et qui est devenu l'immense groupe que l'on connaît. Ils vont sortir en intégrale, en très grosse intégrale, leur série phare de ces 10 dernières années, en édition limitée, c'est-à-dire environ 2000 exemplaires, et à un prix plutôt intéressant. Il y a le décalogue, l'histoire autour. Le décalogue, c'est une vision. Je veux dire, allez, je vais faire un petit résumé de cette œuvre culte en 10 tomes. Le décalogue, ce serait un peu l'équivalent des 10 commandements, mais pour les musulmans, qui aurait écrit par Mahomet, mais qui, hasard du temps, a été complètement oublié et qui se serait retrouvé par hasard à notre époque. Et on revient en arrière et on se rend compte que cela changeait tellement justement la religion musulmane que certains ont préféré le faire étouffer par le sang de préférence. Donc le décalogue est prévu, il y a le triangle secret qui là est autour d'un d'enfant de Jésus, etc. Et des francs-maçons. Bon, c'est rigolo mais sans plus. La balade du bout du monde. Donc ça, ce sera des collections intégrales en coffret qui sont un des tarifs plutôt intéressants. Il réédite à côté de cela Les Naufragés du Temps. C'est l'œuvre de Forest et Guillon. C'est une œuvre. Ça a été lancé à la fin des années 50, si je me trompe. Les Naufragés du Temps, c'était dans France Soir. Les Naufragés du Temps, ça ne dit rien, toi.
Si, hein, Jean-Claude Forest. Je crois que parce que ça a continué.
Oui, épisodiquement, d'abord c'était un feuilleton, ensuite ça a été édité en album, ensuite il y a eu un arrêt du feuilleton, puis ça a repris. Et là donc on a une édition complète qui commence dans de nouveaux recueils. C'est pas inintéressant parce que c'est un monument de la science-fiction française en bande dessinée, tout comme l'a été Valérian et Lon Sloan.
Ouais, mais Forest et Barbarella aussi, hein, faut pas l'oublier, quoi.
Faut pas l'oublier. Sauf que là, bon, c'est un petit peu moins cul, évidemment. Voilà. Ce que l'on attend avec impatience, c'est la nouvelle grande série de Didier Convard et Denis Falk, Les Gardiens du Sang. Ce sera dans la collection de la Loge Noire, donc encore une fois, des histoires occultes, de sociétés secrètes, etc. Et avec des complots politiques et des meurtres sordides. C'est une spin-off du Triangle Secret. Pour l'instant, on ne peut en parler plus parce que ça arrivera en mars. C'est dire s'il y a le temps d'ici qu'on en cause. Chez Drugstore, qui est donc la filiale de Glénat, qui a repris toutes les activités bande dessinée de l'Écho des Savanes, puisque Albin Michel avait arrêté. Du pas mal. Carlos Trio et Bene pour Bang Bang. C'est du cul, hein, voilà. C'est parodie qui est du cul. Exit, une intégrale. C'est Bernard Weber, le créateur des Fourmis, qui s'est lancé dans un scénario de bande dessinée, qu'il a fait dessiner par Alain Mounier et ensuite par Eric Puech. Où, en fait, des gens essaient de se suicider et n'y arrivent pas. Et on les recrute pour une murder party. Où ils doivent se tuer les uns les autres, comme ça, si toi, au dernier moment, tu as peur de ne pas avoir le courage finalement de te tuer ou de savoir comment tu vas mourir, eh ben t'engages quelqu'un d'autre pour tuer à ta place qui lui aussi veut mourir, donc il s'en fout. Voilà. On remarque aussi l'arrivée de Nicolas Poupon. Nicolas Poupon, c'est lui qui dessinait le fond du bocal. Les poissons dépressifs dans les petites scénettes qu'ils étaient dans leur bocal rond. C'était des petits gags en une planche. C'était auparavant aux éditions du Cycliste, un petit éditeur bordelais. Et là, pour une raison que je ne sais pas exactement pourquoi, l'éditeur a décidé de passer chez un grand, chez Glénat. Grand bien lui fasse, mais bon, c'est vraiment dommage par contre pour le Cycliste, tant pis. Ce qu'on attend avec beaucoup plus d'impatience par contre, c'est Inès. Ça devrait arriver en mars. C'est une série scénarisée par Loïc Dauvillier et dessinée par Jérôme Davio avec un dessin. Alors là, c'est pas du tout de la gaudriole, c'est plutôt beaucoup plus dark. C'est un dessin qui est semi-réaliste et très très sombre puisqu'il est question de la violence conjugale dans l'intimité. Donc ça, là aussi, on attend ça avec impatience, c'est en mars. À côté de cela, je voyais tes catalogues en fait en même temps. Qu'est-ce qu'il y a? Les 4 de Baker Street qui arrivent en janvier chez Vendouest. C'est l'histoire de 4 ch'timinos, hein, vraiment des jeunes des rues qui vivent dans la rue à Baker Street à Londres et qui donc se proposent leur talent de détective parce qu'ils sont inspirés par ce qu'écrivent Conan Doyle. Jean est le grand scénario et tient au dessin. On attend de voir. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Eh ben, les parcs sur un scénario et dessin de Micol, qui est une parodie autour des SAS, des barbouzes et tout ça. Tous ces romans, romans d'espionnage des années 50-60 en bande dessinée. J'attends de voir, ça a l'air assez fun. Et Marie-Lune, qui est une nouvelle série dessinée par Ilia sur un scénario de Douillet, qui est ben une adolescente qui est super branchée, qui passe sa crise de nerfs et ses émois amoureux dans l'achat compulsif dans les magasins de mode. C'est un dessin qui est super kawaii, pour ce qu'on a pu en juger sur la planche. On ne sait pas si vraiment ça va être drôle, mais après tout, ça pourrait très bien l'être. En tout cas, c'est joli tout plein.
Oui, c'est
sois heureux, t'as pas de fille. Hein. c'est pas toi qui va rembourser le crédit revolving. Donc ça, ben voilà, c'est les arrivées qui devraient prochainement arriver en kiosque. Midi et 15 minutes sur la poubelle des radios 89.1 MHz. C'est le supplément week-end numéro 181 déjà, s'il vous plaît. Et on va entamer les sorties bande dessinée. J'essaie de tenir la sauce le temps que JB arrive. Voilà. Ça s'est vu, non?
Non, vas-y, passe un morceau de musique.
Katsunuma, remixé par Kid Loco, la chambre, where you mix, c'est dans la compilation de Kid Loco, Jesus Life for Children Under 12 Inches.
Thank you. sourcils. Vous diriez, c'est bizarre. Car vous n'auriez qu'un mot à dire dans la rue, la journée. Si seulement qu'il vous en disait.
Dans les sorties bande dessinée, c'est une petite surprise de la part de Chris Claremont et Philippe Brion. Chris Claremont, c'est quand même un grand, grand nom du comics. Et ben, cette fois-ci, il nous sort une série qui s'appelle Wanderers. Le premier tome s'appelle Le Roi de l'Hiver. C'est chez Fusion Comics, qui est une espèce de spin-off entre Panini et Soleil. Et c'est édité en grand format, comme si c'était un bouquin Soleil. Et... comment dire ? On est... à un moment un petit peu charnière pour Arthur, puisqu'il sent bien que c'est sa fin. Il est acculé par les troupes levées par son renégat de fils Mordred. Le roi Arthur n'a pas d'autre choix que de cacher son bien le plus précieux, Excalibur. De nuit, il fait mander son jeune page Henri, et lui enfonce l'épée dans le corps. Et à ce moment-là, un dragon noir apparaît, ébloui, et stupéfie tout ce présent. Car Excalibur n'a jamais été retiré de la pierre, ou donné par la dame du lac, mais retiré de la chair. Et les membres de la famille Dunruss, à laquelle fait partie Henri, sont les fourreaux de la mythique épée. Dans la confusion de la bataille, il part avec un groupe de Normands, des Vikings si vous préférez, qui se trouvaient là, à faire un raid au hasard près de l'ultime forteresse d'Arthur. Hasard, pas tant que ça. Les Wanderers prennent Henri pour le mettre dans un lieu sauf, chez eux dans le nord, à la demande de leur diseuse d'aventure. Une diseuse de bonne aventure, pardon. Les années ont passé, on a appris que les Wanderers ne furent pas présents par hasard dans le coin. Elgeta, la lectrice de runes, a adopté Henri comme plus comme un petit-fils que comme un esclave. Mais un jour, tout va basculer. Ce jour-là, c'est quand les navires du roi des Wanderers rentrent au port après un long, long raid. Chris Claremont n'est plus à présenter. Scénariste star, éditeur phare de Marvel, on est surpris de le retrouver dans un format spécifique à la bande dessinée franco-belge, dans un univers plus médiéval fantastique. Pourtant un genre avec lequel il a déjà flirté Dragon Moon. Mais Chris est beaucoup plus connu pour ses 17 années sur les Uncanny X-Men. 17 ans, une génération quoi. Au service plus des super-héros finalement, de la fantasy. Thierry Brionne est un Français qui avait déjà signé deux albums de la série La Geste des Chevaliers Dragons et un Kookaburra Universe. Avant ça, il a travaillé dans les studios français d'animation pour Disney. Mais on se souvient surtout de son White Tiger, qui était d'ailleurs finalement pas si génial que ça à cause de l'histoire, et de ses collaborations en comics. J'ai eu une grande impression de confusion sur la première page de l'album, et en fait, le nom de Mordray ne ressortait nulle part. Sinon dans le dossier de presse. Oui, j'avoue, pour une fois, j'ai pioché dedans parce que je sais plus trop où c'est que j'en étais. L'allusion « Rejetons maudits » ne sert que pour ceux qui connaissent exactement leur classique. Fusion Comics et Soleil sortent trois séries simultanées sur les trois personnages de la saga arthurienne. Merlin, Arthur et Lancelot. Et là, eh ben, Wanderer, c'est autour du roi Arthur. Pourquoi ? Je vous en laisserai la surprise à sa lecture. On va dire que c'est pour patienter le temps qu'Alexandre Astier s'arrête de s'amuser et à faire de la pub pour World of Warcraft à la télé d'ailleurs. Chris Claremont au scénario, Philippe Brion au dessin, Wanderers, le roi de l'hiver. C'est le premier tome, ça vient de sortir chez Fusion Comics. Si je te dis 7ème choc, le nom de l'éditeur, on en a souvent parlé dans cette émission. Est-ce que tu te souviens qui c'est qui est derrière ?
Non.
Luc Besson.
Ah.
Et on avait de grosses inquiétudes, on avait trouvé des trucs qui étaient plutôt bien, d'autres qui méritaient d'être travaillés, et d'autres qui finalement étaient complètement passables. Très bonne surprise avec Le Profileur, une nouvelle série. Le premier tome s'appelle Homo Necrosis, une nouvelle série scénarisée par Thierry Lamy et dessinée par Damien Vinzy. Et c'est histoire. Enfin, l'histoire commence d'une manière un petit peu confuse. Ça commence en fait, un tueur en série est retrouvé mort, suicidé, pendu, après avoir assassiné des jeunes filles innocentes. Voilà le bien maigre succès de la police de Chicago qui n'arrivait pas à lui mettre la main dessus. Le problème, c'est qu'un autre meurtrier sexuel au crime particulièrement atroce sévit aussi en ville. Et encore une fois, la police municipale donne l'impression de ne pas avancer d'un pouce. Ce qui a le don d'énerver tout le monde, et particulièrement le procureur Barron, qui n'a pas franchement dans le nez le capitaine Payne et le lieutenant Brewster. Il lui demande de relever les sanctions qui frappent actuellement le lieutenant Dolores Polima. Ivrogne, violente, mais consciencieuse, bosseuse, et finalement une très très bonne enquêtrice. Le problème, c'est qu'il lui faudrait une psychothérapie pour qu'elle s'en sorte, et que Payne daigne la remettre dans les affaires criminelles. Le procureur Barron propose de l'envoyer chez un psychiatre de ses amis, le docteur Karabegovic. Et le docteur Karabegovic n'est pas un psychiatre comme un autre. C'est un spécialiste du comportement meurtrier. Il a fait ses stages à Quantico, et ensuite, il a beaucoup travaillé sur les meurtriers en série. Et s'il mène une enquête en dehors des circuits officiels, c'est qu'il a des méthodes bien à lui. En fait, Dolores n'est pas officiellement sur l'affaire, mais elle est couverte par le procureur et fait équipe avec un profileur particulièrement spécialisé mais officieux. Pourquoi une telle démarche ? Je vous en laisse la surprise, ce sera à vous de le découvrir, mais préparez-vous à fouiller dans les recoins les plus sombres de l'âme humaine. Le scénario vous prend les tripes et le dessin n'oublie pas de détailler les scènes de crime, même particulièrement morbides. En fait, ça retourne l'estomac des fois. Un album bluffant de qualité, particulièrement noir et prenant. Une réussite qu'on serait bien tenté d'applaudir si son glauque ne vous faisait pas si froid dans le dos. Ça fait peur de nous-mêmes. Thierry Lamy et Damien Vinzy, très très bonne nouvelle série qui s'appelle Le Profileur. Homo Necrosis, ça vient de sortir, donc c'est chez 7ème Choc. Rien qu'à la couverture, je pense que là,
sans problème.
Voilà, allez hop. Tu m'en diras ce que tu en penses.
Purifin, qui est un dessinateur israélien, plutôt d'humour, hein, et plutôt en général dans la presse politique de gauche. Bref, c'est un humoriste qui est assez connu, qui est né en 1963, et en fait, ben, c'est le dessinateur le plus célèbre en Israël. Il a un dessin qui est plutôt cartoon, plutôt humoristique, et son premier coup d'éclat, ça a été le super-héros israélien Sabraman, mais surtout c'est le créateur de Zbang, qui est en fait le fer de lance de la publication satirique en Israël, et qui est il est considéré là-bas comme une espèce de Harvey Kurtzman, vraiment le type qui est en train de décoincer là-bas à la bande dessinée, en la faisant passer à l'âge adulte, mais surtout en tant que critique politique. Et là, c'est un bouquin qui vient de sortir chez Berg International, qui est sorti, excusez-moi, depuis un bail chez Berg International, Israël-Palestine entre guerre et paix. Israël-Palestine entre guerre et paix, c'est... Comment dire ? C'est la suite de ce qu'il faisait depuis un bail, justement, en reprenant ses bandes dessinées, où il fustigeait un petit peu, hein, l'attitude des colons, l'occupation des territoires palestiniens. Et un jour, eh ben, il raconte, Yaeli, sa fille, est retombée sur ses photos pendant ses classes dans le service militaire. Oui, puisque là-bas, ben, en Israël, on reste actif, on doit, je crois, un mois par an de service militaire. Et de toute façon, on ne peut pas passer son bac, on ne peut pas rentrer en université avant, justement, d'avoir fait ses classes militaires. C'est un peu ça qu'il raconte et... Oui, pardon.
Ouais, enfin, ça dure vachement longtemps quand même, parce que c'est 36 mois pour les garçons et 24 pour les filles.
Et c'est mixte, surtout, t'as raison de le préciser. Mais malgré tout, eh ben, il en a gardé quelque chose et comment dire, eh ben, en fait, il fait une bande dessinée là-dedans qui n'est pas une bande dessinée d'humour, mais une bande dessinée de peur envers lui, envers ses concitoyens, envers les autres. Et oui, dit, ben finalement, tout n'est pas si bien, tout n'est pas si mal. C'est vrai qu'à une époque, il était pro-palestinien. Maintenant, il se dit, oui, c'est vrai, je me sens un petit peu plus pro-israélien, mais sans l'enthousiasme et sans tout ça. Et il dit, c'est très simple, Israël et Palestine, c'est pas le bien, le mal. D'ailleurs, quel que soit le sens où on le regarde, il y a énormément de nuances. Il y a des agitateurs, il y a des professionnels de l'agitation et du jetage de l'huile sur le feu. Il y a ceux qui aimeraient bien mettre une paix, mais on ne sait pas pourquoi. Et puis surtout, il y a la violence aveugle, aussi bien des Palestiniens dans les attentats suicides, que des Israéliens quand ils font des razzias, soi-disant des perquisitions, et qui détruisent aveuglement des maisons, laissant des familles sur le carreau, ce qui crée de nouveaux candidats aux attentats suicides, et on se dit c'est pas fini. C'est entrecoupé entre guillemets de scènes d'humour qui s'appelle Israël pour les nuls, qui veut expliquer justement au lecteur français en Israël vous êtes guidé par le charmant jeune homme qui s'appelle Herzl, qui est très dynamique et qui veut vous expliquer ce qu'est que Israël, comment on vit, hein, tout ça. Et que par exemple, une anecdote assez rigolote, c'est, tu sais comment on fait pour reconnaître à Paris, JB, tu ton micro, pas le bleu. Tu sais comment on fait pour reconnaître en shopping à Paris un Israélien? C'est le mec ou la nana qui rentre dans un magasin et qui regarde autour de lui de tous côtés parce qu'il y a personne pour regarder son passeport et fouiller dans son sac. C'est que des trucs comme ça, c'est assez... Il dépeint vraiment la société civile israélienne. Il dépeint, je vais dire, justement, entre les orthodoxes, entre les laïcs, entre la gauche, la droite, les espoirs complètement déçus. Bref, il revient sur son militantisme à lui, justement, d'un côté, et puis est-ce que vraiment il y a un espoir de paix, ou est-ce que personne n'a envie qu'il y ait vraiment un espoir de paix ? Uri Fink, Israël-Palestine entre guerre et paix, c'est chez Berg International. C'était les mêmes qui avaient publié le bouquin d'Arnaud Bureau sur mai 68, où on en avait pris énormément de choses. Et ben là aussi, on apprend beaucoup de choses. C'est une vision de l'intérieur sur cette situation, mais c'est une vision qui est plutôt neutre, de gens qui aimeraient justement la paix et qui ne sont pas là pour des questions de fanatisme, mais tout simplement parce que
ils sont citoyens de cet État, ils ne sont pas forcément en accord avec la politique qui est menée, sans forcément cautionner ceux qui la combattent. Israël-Palestine entre guerre et paix. Ben, c'est un bouquin, justement, c'est intéressant parce que ben ça peut, on peut se dire oui ben comment ils pensent là-bas sur certaines choses et ça l'explique très très bien. Voilà, JB est arrivé, je lui laisse le temps de se dessaper comme ça proprement, voilà, parce que là sinon il va crever de chaud. Est arrivé avec une chronique et en plus il a fait au pied levé, félicitations. Mais et c'est pas sur n'importe quoi.
Tu me fais citer à chaque fois que je fais une chronique, tu vas être surpris chaque semaine alors. Hein.
J'espère bien. Bon, vous écoutez le supplément week-end, vous pouvez continuer nous écrire pour nous chambrer et prendre la défense de JB sur supplementweekend.fr. Il y a un onglet contact pour cela. J'espère que tu vas bien et aujourd'hui tu vas parler de démons.
Oui, comme tu sais, Hellboy est à l'affiche au cinéma encore. Et effectivement dans le film Hellboy 2 les légions d'or maudites, mais en même temps en fait c'est une double actualité parce que autant il est au cinéma autant il est aussi en bande dessinée avec le dernier opus qui vient de sortir qui s'appelle L'Appel des Ténèbres édité chez Delcourt. Bon, si je vous en parle c'est surtout plutôt du dernier opus de Delcourt. Mignola qui est le créateur de Hellboy, scénariste et dessinateur, s'accompagne de l'aide de Duncan Fregedo pour cette histoire plutôt rocambolesque. Je fais mon sport en citant toutes les personnes.
Non, on donne les crédits.
Voilà. En effet, Hellboy, bon, je vous le rappelle, c'est le démon qui a été récupéré tout bambin par les G.I.s au temps de la Deuxième Guerre mondiale. Et cette fois-ci, qui va devoir encore affronter son némésis, c'est-à-dire Baba Yaga, la célèbre sorcière connue dans les mythes et contes russes. Celle-ci n'aura qu'une seule envie, venger l'affront qu'elle avait dû essuyer dans les épisodes évidemment précédents. C'est clair, c'est vraiment du Hellboy chapitre 9, le retour de la voisine du boulanger de la pitié, spoiler stop, j'arrête là. Donc je disais donc, ah oui c'est vrai. De là, sorcières, armées de squelettes, zombies, pourceaux et trolls et autres entités légendaires vont se croiser dans ce tome, autant forcément évidemment slave. Mignola nous livre une histoire bien sombre, bien incontumée. En effet, en général, bon, le ton est toujours aussi noir qu'un Lovecraft ou qu'un Edgar Allan Poe, ce qui en fait sa force. Mais autant par son ancrage. Qui est franchement sa patte. Bon, l'histoire est destinée évidemment à un public mature, les allusions aux différents mythes sont foisonnants, mais toujours avec discrétion et parcimonie. Ce qui en fait, moi ce que je trouve qui est vraiment l'un des grands intérêts, c'est tout à fait antagoniste avec les comportements de son personnage principal qui est franchement pas réputé pour faire dans la dentelle. Donc l'intérêt, comme je vous disais, de Hellboy, c'est de pouvoir lire une histoire, somme toute toute assez bourrine, mais mélangée avec des différents mythes et légendes. Bon, je l'avoue, je suis fan de la BD. Hein. Dès le premier coup d'œil, moi je trouve que le dessin de Mignola, ben, il est parfait. Il est toujours aussi un petit peu abstrait, très géométrique.
Et tout... c'est là où justement, c'est ce qui est ça, à la fois sa marque de fabrique et de qualité. C'est vraiment un dessin d'une précision absolue.
Tout à fait. Ses couleurs sont excellentes, elles sont toujours sobres et réalistes et vous donnent vraiment le propos par rapport à la bande dessinée. Et ce qui me happe à chaque fois, ben, comme je l'ai dit juste avant, c'est son ancrage. Il en met des tonnes de noir, on a franchement l'impression qu'il est tombé sur du Pierre Soulages étant jeune et depuis il n'en a jamais décroché. C'est magnifique. Et comme tu disais, c'est vraiment sa marque. Pratt, ben, il a ses aquarelles, Moebius il a son trait, Sienkiewicz il a son patchwork, ben, Mignola, ben, c'est bon. Hein. Il est rentré depuis bien longtemps dans la famille des grands dessinateurs. Donc comme c'est bientôt Noël, c'est une proposition d'idée pour mettre sous le sapin. Bon, je l'avoue, l'actualité BD, je trouve que ces temps-ci est vraiment bien chargée, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que vous avez plein de bonnes choses qui sortent mieux qu'en septembre.
Ouais, on a fait justement le résumé pendant le premier quart d'heure, ah ouais, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent, qui sont pas inintéressantes.
T'as cité quoi, par exemple?
Non, mais là, il va falloir que tu réécoutes l'émission, sinon on en a pour un quart d'heure.
Ok. Parce que moi, j'ai vu Attardi, j'ai vu Winslush de chez les Rocamarteau avec son Pinocchio.
Oui, tout à fait. Mais pas chez les Rocamarteau, justement.
Chez les Rocamarteau, j'ai ouvert le bouquin, j'ai regardé qui était l'éditeur.
Bah alors, il en a un autre qui est prévu, normalement, qui devrait pas tarder.
D'accord. Et en même temps, je vais pas faire de pub, mais à vous de chercher. Vous avez un bouquin de Crobar de McKean qui est proposé chez un des revendeurs. À vous de le trouver.
Tu peux redonner, s'il te plaît, les crédits.
De Hellboy, tome 9, je répète, donc. C'est s'appelle L'Appel des Ténèbres et c'est édité chez Delcourt.
Belle ambiance bien noire. Et on parlait tout à l'heure, on parlait du patron de la maison des idées. Et là, cette fois-ci, c'est quoi?
Alors là, c'est les sorties mensuelles donc chez Panini Comics, avec tout d'abord le nouveau Spider-Man, toujours aussi intéressant, moi je trouve, hein, de toute façon. Il y a également au programme un one shot assez rigolo, hein, avec plutôt des trucs pour la jeunesse et tout, quoi, avec le message d'intérêt public à la fin et tout. Ne vous amusez pas trop avec vos ordinateurs, parce qu'en fait c'est l'histoire de deux gamins qui jouent sur ordinateur à des jeux de baston et qui se retrouvent connectés au système de défense du Pentagone et qui donc menacent de tout faire péter. Alors donc
Spider-Man, ça me rappelle quelque chose.
Alors Spider-Man est obligé d'intervenir avec l'aide de Iron Man, mais enfin ça le fait pas, quoi, tu vois, quoi.
Oui, enfin, c'est un film de
1984,
hein, quand même.
Oui, War Games.
Voilà, c'est bien. Mais oui, créer, si tu veux, ils arrivent à créer un robot qui va tout péter en ville et tout, quoi. Donc ça la fout mal. Mais il y a surtout
1986, là, une créature de rêve.
Ouais. Qui n'est pas.
Tu sors.
Ah non, mais écoute, je l'ai cherché, il n'est pas au programme cette semaine. Je l'ai revu dernièrement avec beaucoup de plaisir.
Tu m'étonnes.
Franchement, quoi. C'est surtout dans Spider-Man, c'est surtout la nouvelle série de Warren Ellis, Thunderbolt, où ça pète, mais vraiment à fond les manettes, tellement que Norman Osborn, tu vois, qui est directeur de la prison, ils enferment tous les mutants et autres super vilains. Mais alors vraiment, il y en a des méchants que tu ne crois pas. Et même que tu te dis, les mecs, ils arrivent à tout exploser. Et pourtant, on les enferme en cage et là, ils explosent rien. Alors bon, c'est un peu bizarre, mais ça fait rien. S'il faut quand même.
Moi, je croyais qu'il y avait régulièrement des évasions assez spectaculaires.
Ouais, mais alors là, ils s'en passent des vertes et des pas mûres et tout, parce qu'ils cherchent carrément à se venger à l'intérieur de la prison. Et donc, Norman Osborn, il est obligé de reprendre son vieux costume. tout usagé, quoi. Mais
le bouffon,
toujours
le gobelin.
Green Goblin ou le bouffon vert en version française, c'est comme vous voulez. Donc là, ça pète vraiment bien.
C'est le vert. T'es sûr que c'est le vert, c'est pas son fils là?
Ah ben non, regarde.
Parce que attends, c'est quoi le nom du fils? Enfin, en VO, c'était le Hobgoblin.
Norman, c'est le père. Harry, c'est le fils. Harry, ouais.
Le Hobgoblin. Le fils. Et en français, c'était traduit comment?
Le bouffon vert.
Non. Le fils du bouffon vert avait un autre nom autre que le bouffon vert.
Merde. Non, là, je suis pas branché sur les.
Ce sera la question de la semaine.
Quiz à nos auditeurs, sans chercher sur Internet, évidemment.
Sinon, le plus intéressant reste quand même dans les deux franchises X-Men de chez Panini Comics en mensuel, eh bien la suite et la fin de cette fabuleuse saga, le complexe du Messi, paru donc simultanément dans les deux franchises, à savoir dans Astonishing X-Men et dans X-Men, Uncanny X-Men tout court, Astonishing X-Men étant la franchise qui avait été créée à l'origine pour que Joss Whedon puisse développer ses scénarios pour Marvel sur les X-Men. Et comme Joss Whedon s'est arrêté il y a pas si longtemps que ça, bah ouais, ça s'est arrêté, hein, Astonishing X-Men de Joss Whedon et Cassaday, c'est terminé. Donc bah pour mettre quelque chose d'autre à la place, on a trouvé donc cette saga en 7 parties, donc qui fera certainement très prochainement l'objet d'une sortie, le bouquin bien épais et tout,
un trade paperback.
Et je peux vous assurer que cette histoire de bébé mutant que tout le monde recherche, qu'il y en a qui veulent le dégommer parce que ça va être la fin des mutants, parce qu'ils ont vu dans l'avenir, d'autres qui disent il faut le protéger, c'est lui le futur, c'est lui le Messi de tous les mutants et de tous les êtres humains. Et donc il y a Cable qui le guerrier venu du futur, ouais, rappelez-vous, qui s'est barré, c'est lui qui a emmené le bébé et qui essaye de le planquer, mais tout le monde, les maraudeurs qui recherchent les X-Men et toutes les tribus de X, il y a X-Factor dedans, il y a les New X-Men aussi, c'est-à-dire la version jeune des mutants, tous ils le recherchent, quoi. Et vers la fin, ça va un petit peu se gâter quand même, hein, parce qu'ils envoient même Madrox. Ils envoient même Madrox dans le futur, c'est-à-dire 80 ans après les événements actuels, pour savoir ce qui va vraiment se passer, pour savoir si la donne concernant ce bébé va se vérifier dans le futur. Tu vois un petit peu le genre, quoi. Bon, évidemment, ils n'arrivent pas à tout trouver. Enfin, bon, je vais quand même pas tout vous dévoiler. Je vais quand même vous dévoiler si la fin,
non.
Parce que
non.
Ça se termine sur une page noire. Ça se termine sur une page noire.
Non, c'est du gâchis d'encre.
Et surtout, ça se termine par la disparition d'un personnage ô combien majeur dans la saga des X-Men, dans l'histoire des X-Men. Que dis-je ? Un des membres fondateurs. Et là, ça ne va plus être tout à fait pareil. Mais ce qui est vachement intéressant, c'est qu'à la fin donc de ce dernier épisode du complexe du Messi, c'est suivi dans le périodique, hein, dans les X-Men. C'est suivi donc par d'autres histoires de X-Men, bien entendu. Et là, on se rend compte qu'ils sont un petit peu en vacances, qu'ils sont allés vaqueux, chacun à leurs différentes occupations dans différents lieux. Ça peut être des vacances virtuelles pour Scott Summers et Emma Frost, ou ça peut être une petite virée mémoriale, on va dire, hein, en ce qui concerne Colossus, Diablo et Wolverine. Mais enfin, tout ça, dénote, de par ce qui est dit, hein, qui est sous-tendu, on va dire, hein, dans les dialogues des différents X-Men, que il y a une période qui vient vraiment de s'achever et qu'il est temps de passer peut-être à autre chose, peut-être pour mieux rebondir d'ailleurs. Mais enfin,
non, parce que moi j'ai dû lire ça avant.
Bon, on va mettre les Kaufman Club, comme ça vous démerdez aux antennes. We'll be right back.
The Craftsman Club, Desert Island. Leur album 36 minutes est en pré-écoute sur FMR puisqu'il sort courant janvier. Hop, excuse-moi, voilà. Les scénaristes se suivent et se ressemblent. Les héros s'en sortent toujours et on aime toujours ça. C'est la loi des séries. Du sport, oh grand du sport, que vois-tu dans ta zapette magique?
Je vois la série d'un scénariste énorme qui n'est peut-être pas encore aussi grand que, on va dire au hasard, Steven Bochco, on va dire au hasard David Ekele. Ça c'est Sean Ryan, qui n'est pas un inconnu parce qu'il avait déjà travaillé sur d'autres séries. Mais non pas encore en tant que créateur, hein, c'est-à-dire que c'est mon bébé à moi et tout. Je vais bien entendu parler de The Shield, cette magnifique série qui s'achève,
qui vient de se terminer, oui,
avec une 7e et dernière saison, hein, qui va être diffusée sur Canal+, décalée à partir de demain soir 22h40. 7e et dernière saison donc pour Vic Mackey et ses acolytes.
Je sais pas si t'as vu, mais il y a Monsieur Poulpe de Nerds qui a fait sur son blog un billet à hurler de rire en hommage à The Shield. C'est la série énorme qui a tout bouleversé ces derniers temps de ce côté-là. Pour un budget qui n'était pas très important, puisque c'est une série qui ne passe pas sur une major, mais sur une chaîne du câble qui s'appelle FX.
Non, ça passe sur FX, hein, donc justement, bon, de toute façon, bon, vu le sujet, hein, c'est surtout beaucoup tourné en extérieur, donc il y a besoin d'un petit peu moins de moyens de toute façon. Donc c'est à partir de demain soir sur Canal+ décalé 22h40 The Shield 7e et dernière saison. Sinon mardi prochain CSI Miami avec Horatio Caine.
Il s'est découvert. Attends une minute.
Il l'a emmené, c'est les grands esprits qui se rencontrent, c'est quand même assez incroyable.
Non, pas ça, l'autre. Championnat de remettage et d'enlevage de lunettes de soleil. Allez, voilà. Tout ça.
En plus, il a une phrase fétiche, mais je l'avais trouvée cette semaine, je m'en souviens plus. Je la sors.
Il a commis une erreur. Il a commis un meurtre. Non, d'habitude, il remet les lunettes, pardon. Il me trompe à chaque fois, ça.
Donc, ce cher Horatio, tu disais.
Alors, Horatio, rappelle-toi. Il s'est découvert un fils.
Oui, tout à fait.
En plus, il le fout.
Délinquant.
Délinquant. Et en plus, il le fout au trou direct. Tu vois, ouais, ça t'apprendra la vie. Petit con, va. Donc, dans cette saison-ci, c'est bien, les choses vont se préciser puisque on va voir apparaître également sa femme, enfin son ex, c'est-à-dire la maman, hein. Et ça va pas être désagréable vu qu'il s'agit d'Elizabeth Berkeley. Aha. Rappelle-toi, Showgirl. Showgirl.
Je l'ai pas vu, mais c'était.
Aïe, il n'a pas vu Showgirl.
Non, il y avait un film porno qui était plus intéressant.
Tu es un mauvais vérovénophile, alors.
Tout à fait.
Tu n'as pas vu Showgirl. Sinon pour le reste, pas beaucoup de changements et tout, quoi. Alors bon, l'autre, ils l'ont quand même viré, mais tu sais, alors l'histoire du mec là, comment il s'appelle, Jonathan Togo, qui interprète un des mecs de l'équipe de Horatio, et puis dans un épisode. Il commet, on va dire, quelques impasses, c'est-à-dire que il se laisse acheter parce que il y a des dettes de jeu et donc
il
se fait virer, carrément virer. Oui. Mais il continue parce que, alors lui, il a quand même son truc incruste dans le générique et tout là qu'on entend, tu vois. Ouais, vas-y, avec Jonathan Togo. Et donc, on continue à l'utiliser tout d'abord en tant que consultant, puis en tant qu'autre chose. Et à chaque fois, c'est le mec qui va filer un petit coup de main, tu vois, quand même, pour participer, quoi. Pour
montrer qu'il même participer les morts, hein.
Ouais, qu'il est.
C'est un peu mitoyable.
Montrer qu'il est quand même encore dans la série, et puis en fin de compte, non, je veux bien que.
Non, il est puni, il a dit du mal.
Non, mais c'est juste qu'il y ait un petit peu d'histoire quand même, ça bouge un petit peu quand même dans cette série, avec en plus l'autre qui joue le rôle du flic fouineur et tout, qui veut emmerder tout le monde et tout, tu sais, le mec du FBI. Donc c'est une série
c'est
qui gagne.
C'est toujours le même d'ailleurs.
Mais il a la tronche de l'emploi lui, de toute façon, quoi. Ça, y a pas de problème. Du côté du casting, ça lui fait. Alors donc, c'est à partir de mardi prochain, 20h50, la saison 6 de CSI Miami. Alors là, je vais vous proposer une série dont je n'avais jamais entendu parler. Mais alors, jamais au grand jamais, et c'est peut-être parce que l'horaire de diffusion qui nous est encore proposé par Canal Jimmy, eh bien, défie toute concurrence. De toute façon, c'est une mini-série argentine qui s'appelle Sécurité d'élite.
Et ça passe sur Canal Jimmy mardi
prochain.
Oh là,
ça fait peur.
À 4h25 du matin. Ça fait vraiment peur. Non, non, je.
À 4h25 du matin.
À 4h25 du matin. Alors, j'ai fouillé dans les autres programmes de la semaine de Canal Jimmy pour savoir s'il y avait une rediff un peu plus décente, on va dire. Et j'ai pas trouvé. Alors, bon, bah, tant pis, hein. Faudra se lever à 4h25 du matin.
Non, mais attends, mais c'est pas possible, mais.
Si, si.
Alors, ils m'ont racolé, ils m'ont dit, ah, oh, vous voulez CanalSat et tout ça? Je lui ai dit, non, je peux pas enregistrer. Alors si effectivement c'est des séries qui passent à 4h25 du matin, comment tu veux avoir la chance de le regarder?
Ah bah ouais, c'est comme ça, c'est comme ça. On termine avec La Baie des Flamboyants. Tu as jamais vu ça, et pour cause, parce que tu ne regardes jamais France O. Ça c'est quand même un tort, parce que c'est quand même une chaîne assez intéressante du groupe France Télévisions, je vous le rappelle quand même,
hein, c'est la suite de La Fouet Noire.
C'est France Outre-mer, hein, tout simplement, quoi. France O donc, eh bien, produit carrément la première telenovela française,
oui,
digne de ce nom, et je pèse mes mots, hein, en tant qu'admirateur inconditionnel de Chiquinha Gonzaga, une vraie telenovela brésilienne, je peux te dire c'est pari presque gagné pour cette Baie des Flamboyants qui va attaquer sa deuxième saison sur France O tous les jours de la semaine prochaine.
C'est quoi pour les auditeurs une telenovela?
Eh bien, c'est des histoires.
Tu sais pas. C'est quand Touareg qui rentre dans la chambre, qui surprend Luana, qui est en train de sortir avec le jardinier. Alors Rex, va-t-il aboyer pour prévenir son maître, ou est-ce que il va participer au gangbang?
Ouais, c'est des feux de l'amour et de gloire et de beauté serait un petit peu plus outré, tu vois quoi. Et tourner plutôt dans le côté versant sud de l'Amérique, hein, c'est-à-dire que t'as des telenovelas mexicains, t'as les Brésiliens qui sont très férus, t'as bien entendu l'ensemble des pays du continent sud-américain qui a ses propres.
Qui ont chacun leur propre telenovela, même si c'est les mexicaines.
Il faut savoir que Ugly Betty au départ était une telenovela colombienne, donc voilà, qu'elle est un petit peu le genre, on va dire, qui s'apparente au mot telenovela. Il faut aussi savoir que cette série française donc a été achetée par TV Globo, hein, des chaînes
par les Brésiliens,
brésiliennes, qui est spécialiste dans les telenovelas.
Ils vont les doubler, c'est rarissime.
Qu'est-ce que tu veux, c'est ça la gloire. Donc c'est sur France O, La Baie des Flamboyants, tous les jours de la semaine à partir de 17h45. Oui, mais de toute façon, c'est obligé.
Il y a qu'en France et en il y a très peu de pays en Europe où tu doubles.
Non, mais TV Globo, ils s'emmerdent pas quand ils achètent un concept de série, justement quand c'est du feuilletonnant comme ça, ils s'emmerdent pas, ils le retournent.
Alors la tendance de cette série Ben et Flamboyant, c'est plutôt le public visait plutôt un public assez jeune, on va dire, hein, car l'ensemble du casting sont des gens qui doivent tourner au maximum 30 balais maximum, tu vois quoi. Donc c'est quand même visé un petit peu jeune. Il est 13h pile, parlons à présent.
Mais que se passe-t-il?
Il se passe quelque chose là.
Disparaît, va-t-il revenir?
Non, Morandini, tu sors de là. on va parler.
Ça y est, comme ça, elle est faite.
Il a été. Je sais pas si t'as vu la cérémonie des Gérards. Qui est librement regardable pendant une cérémonie d'une heure qui a été diffusée sur Paris Première, librement regardable sur lesgérards.tv. Chaque fois qu'il était question de citer à un prix Morandini, t'avais tout le monde qui disait donnez-le-lui, donnez-le.
Et il est venu, non? Je l'ai pas vu, je l'ai loupé.
Non, il y était pas. Et l'année précédente, il y avait toutes les personnalités qui étaient certaines personnalités qu'ils avaient citées avaient leur magnéto pour dire je l'ai pas eu. Morandini l'avait fait.
Il y avait Ondelat qui avait joué le jeu et qui était venu quoi prendre son prix.
Non, le tout premier prix ça a été cette année.
L'année dernière.
L'année dernière, il l'avait pas pris. Je l'ai regardé.
Non. C'est pas ça que la question. Ça fait plusieurs années que ça existe, Gérard.
3 ans. Pour la télé, c'est les 3 ans. Mm-hmm. Rituellement, c'est la veille de la cérémonie des 7 d'or qui n'a plus eu lieu depuis 10 ans. Et c'est un gag. Mais Ondelat, non, c'était pas le tout premier. Le tout premier, c'est Valérie Davido qui est allé chercher son trophée. C'est la première fois que ça arrivait. Je rappelle que le trophée est un parpaing. en béton, doré. Et elle a eu le trophée de l'animatrice la plus chiante. Elle est allée le chercher avec beaucoup d'humour. Et elle a dit, ça tombe bien, je comptais le mettre au-dessus de la cheminée, voire construire quelque chose autour. Et la cérémonie est à hurler de rire. C'est la première année d'ailleurs que le Gérard de la plus mauvaise chaîne de télé, qui est symbolisé par un sac de ciment doré, puisqu'il faut du ciment hein, pour faire tenir toutes ces briques, n'est pas allé à Direct 8, mais à France 2. Et Ondelat, justement, n'était pas présent, mais en tout cas, il a été...
Il était là l'année dernière hein, pour un prix nominatif, et donc il l'a eu, quoi, tu vois. Et lui, il est venu le chercher. Et tout.
Je l'ai re-regardé, cool. La cérémonie, je peux te dire qu'il n'était pas...
Bah si, on n'a pas eu la même, alors.
Oh, merde. Ou alors je me suis trompé d'année, peut-être. Mais c'est assez hilarant, et c'est très violent, hein, par contre, ça y va sec. Ah oui, oui. Cette année, ça a été sponsorisé par une boîte de production qui s'appelle Demi-Molle, et... Non, c'est à voir. À voir.
Oui.
Donc, télé-réalité, revenons-en. Et surtout, la télé-réalité qu'on peut voir et qui compose pratiquement l'intégralité des programmes de cette magnifique chaîne qui est E Entertainment. Je ne vais plus dire I parce que sinon vous allez me dire ouais, c'est I télé, ça n'a rien à voir.
Non, tu dis I Entertainment ou tu dis I Television. Mais pas mais pas iTélé.
iTélé, ouais, non, mais bon, j'ai mes repères
c'est
personnels.
C'est Entertainment maintenant.
C'est tout. Alors, tout d'abord, le super match des deux émissions télé-réalité entre deux blondes à forte poitrine en ce moment. À ma gauche, 40 balais passés, tranquille, mais des opérations, des rétrécissements, des regonflements. En veux-tu, en voilà, des maris qui sont à la limite de la psychose, mais c'est pas grave, elle est vachement mieux. Et elle est canadienne, c'est Pamela Anderson. À ma droite, tous les jours de la semaine, tu peux aller voir, la voir sur la télé française, la plus regardée par les Français. C'est la preuve que bon, bah ouais, tant pis, c'est comme ça. Et maintenant qu'elle a une nouvelle vie de célibataire, vu qu'elle est plus avec son mec, si, mais ça fait quand même 6 mois. Ça fait quand même 6 mois, mon gars. Faut te renseigner. Eh bien, elle trouve le moyen de tourner dans une télé-réalité qui s'appelle Ma vie parfaite, Victoria Silvstedt. La roue de la fortune, si.
Ah, parce pardon.
Voilà. Ouf.
Celle qui a eu un Gérard, justement. Je sais plus lequel.
Ah, bah, ça, certainement, de toute façon.
Elle a eu le Gérard de l'animatrice, qui sert le plus à rien, ou un truc comme ça.
Alors, donc,
c'est bien son propos, hein.
Deux émissions de télé-réalité, donc, qui, c'est toujours le même principe. On suit, l'intéressé, ben, dans un petit peu tous ses déplacements, dans sa vie professionnelle, dans sa vie, privée aussi, hein. Alors, pour Pamela Anderson, il y avait une contrainte, c'est de ne pas filmer ses enfants et les enfants de Tommy Lee, quoi. Donc, ok, alors tu les vois, mais la tête est floutée, quoi. Donc, ok, tu peux pas les reconnaître, vraiment, parce qu'après ils sont sapés comme des gosses, quoi. Normal, sans problème. Alors, dans le Pam en toute liberté, ce qui est très intéressant, c'est que bon, bah, on voit une Pam qui essaye d'être très naturelle comme Nana. On sent que bon, c'est Nana qui est pas encore, qui est vraiment pas maniérée et tout, elle est assez nature, et c'est quand même assez ça qui est assez intéressant dans cette télé-réalité qui s'appelle Pam en toute liberté. Par contre, en face, Victoria Silvstedt, Ma vie parfaite. Alors là, c'est vraiment du tout et de n'importe quoi. Enfin bon, on essaie de plonger dans une espèce d'univers faussement glamour où tu vois la nana qui en plus exhibe une poitrine que c'est vraiment de trop, tu vois, quoi, c'est trop gros, c'est même plus joli, quoi, tu vois, c'est n'importe quoi pratiquement. Mais c'est surtout la nana qui t'arriveras jamais à adhérer à son trip vu qu'elle est complètement et constamment en représentation, c'est-à-dire qu'elle n'est jamais elle-même, elle est toujours plus ou moins en représentation par rapport à quelque chose, un habillage, on essaie une nouvelle robe pour aller chez machin, puis ensuite on va chez le truc, chez Bidule, hop, encore maquillage et tout. Alors bien sûr, ça donne prétexte à des scènes où elle est obligée de se déshabiller, ben ouais, pour changer de fringue, c'est normal, quoi, tu vois, quoi. Mais alors bon, c'est vraiment poussif, hein, c'est vraiment assez n'importe quoi. On préférera donc de toute façon Pam en toute liberté. Regardable donc plusieurs moments de la semaine, c'est rediffusé. Alors demain à 17h15, Shout It Loud, ça c'est de la saison 2, qui est rediffusé mardi à 22h15. Jeudi, 20h35, un épisode dont je vous avais déjà parlé de la saison 1 qui s'appelle Makaba no Kamada. Et on a également suivi d'une autre télé-réalité concernant une actrice qui essaierait bien de continuer devant de la scène. Bon, ça concerne pas Victoria Silvstedt. Elle aura beaucoup de mal, à mon avis.
Oh. Oh non.
Ah si si, elle aura beaucoup de mal à mon avis à percer dans le milieu du cinéma. Mais après le PAM en toute liberté de jeudi prochain à 20h35 qui s'appelle Makaba no Kamada, il y aura l'autre télé-réalité dont je vous parle moins parce que bon bah ça vaut pas le coup tellement c'est confondant de stupidité. C'est pas facile d'être Denise Richards. Oh. Tu aimes bien toi Denise Richards?
Oui je l'aime bien.
Ah, bah, ne regarde jamais cette télé-réalité parce que tu seras vraiment déçu à
ça
mon
y
avis.
Ça y est, j'ai réussi à récupérer la liste des
concernant Victoria Silvstedt, Ma vie parfaite. Demain à 21h, c'est l'épisode 5 hein, d'une saison qui en compte 8. Un épisode 5 qu'on peut
si vous voulez vous voir un Christophe de Chavannes s'exciter sur sa jambe.
Lundi à 20h35 et l'épisode 4 est également regardable ce soir à 19h45.
Regardable.
C'est pour ceux qui ont des problèmes de blonde à grosse poitrine, à mon avis. Mais il y a également d'autres, parce que là je vous ai parlé des deux.
Je peux rapidement donner la liste des Gérard puisque je les ai retrouvés.
Ouais.
Bon, alors donc le année. Gérard de l'animateur qui faisait un carton à la radio et qui fait ses cartons à la télé, nominé Julien Courbet, Nicolas Demorand, Bruno Guillon, c'est Christophe Ondelatte qui l'a eu, bien évidemment. Gérard de l'émission qui fait bien de dire qu'on la regarde alors qu'on la regarde pas parce qu'à la même heure il y a Tilia Célibataire et Bi sur MTV. Donc parmi les nominés, Des mots de minuit, Riposte, Café littéraire, Cactus, Au fil de la nuit, et c'est ce soir ou jamais qu'il a eu. Gérard de l'animateur ou de l'animatrice qui ressemble plus à un jouet, Marie Coleman qui ressemble à Vera de Scooby-Doo. Gérard de attention, ça pense qu'ils arrivent à le dire en une seule fois sans respirer. Gérard de l'accident industriel, mais vraiment le gros crash, tu vois, avec un animateur arrivé en fanfare au mercato, puis qui fait sourdine à l'audimat. D'ailleurs, il y a plus cru lui-même dès le deuxième numéro, et tu te dis que le pilote devait être vraiment génial, parce que quand on pense au prix qu'elle a coûté cette connerie, il y a de quoi se la prendre et se la mordre. Vendredi, si samedi, avec Christophe Audelatte. Gérard de l'émission qu'on découvre à l'hôpital parce qu'on se partage sa chambre avec un vieux et qu'on se dit, c'est pas si mal en fait, le magazine de la santé au quotidien. Gérard de la vedette dont on n'a pas remarqué la disparition. Marc-Olivier Fogiel, je tiens à signaler qu'il y a Pascal Sevran, Pascal Bataille, Laurent Fontaine, Daniel Schneiderman, Roger Hanin et Yves Renier qui étaient dans la même catégorie. Hein. Gérard de la boulette. Alors il faut citer les boulettes quand même. Hein.
Qui c'est qu'il a reçu le Gérard de.
De la vedette Marc-Olivier Fogiel. Gérard de la boulette, Éric Amoulet, lançant une nécro d'Yves Saint-Laurent un mois et demi avant sa mort à la place d'Aimé Césaire. A noter que Julien Lepers, qui offrait des livres des jumelles et un pneu à un candidat aveugle, ou encore Jean-Marc Morandini annonçant la mort de Pascal Sevran une semaine avant, était nominé.
À des Ruquier qui avaient repris.
Et Ruquier aussi était nominé.
20 minutes après.
Gérard du chroniqueur qui lèche bien plus, le plus les bottes de son animateur vedette, et quand on dit les bottes, c'est pour rester poli. C'est Isabelle Martinet, Thomas Hervé, Sophie Fignal, David Martin, Frédéric Gersal, Yvan Lavoie, Brigitte Fahy-Cohen qui l'ont obtenu pour Télématin.
Télématin, ouais.
Voilà, ils ont dit une note, il vaut mieux lui lécher les bottes plutôt que le rentrer dans les bronches. Gérard de la carrière qui
ne anglais, c'est ça.
Ouais. Gérard de la carrière qui décollera décidément jamais. Stéphane Blakowski. Gérard du Maboule, William Lébergie. Gérard de l'émission d'en bas, l'émission avec les pédophiles, les chômeurs et les consanguins filmés dans le Nord comme par hasard pour confession intime. Gérard de l'épisode le plus palpitant des chiffres et des lettres, c'est l'émission du 23 septembre 2008 qu'on a tous en mémoire bien évidemment. Gérard du plus nominé au Gérard, Amandine Altaï. Gérard de la réalisatrice qui bénéficie le mieux des réseaux de son mari, en nominé il y avait Ariel Dombal. Gérard de l'animatrice bien relou, oui je vous dis pas qui c'est qu'il a eu, c'est Valérie Damido. Gérard de l'animateur bien relou, c'est Christophe Ondelatte. Gérard de la chaîne qui a vraiment tout fait pour l'avoir, le Gérard, c'est France 2. Donc voilà, et il y avait IDF1, ce qui quand même en soi était une belle concurrence.
Je suis plutôt méchant sur Ondelatte parce que en même temps hier soir j'ai maté Tandem là. Son rendez-vous trimestriel, moi je trouve ça vachement intéressant.
Oui, mais la seule émission où il a vraiment été nul, c'est vendredi si samedi.
Oui, mais ça j'ai pas essayé. C'est vrai que ça s'était
non,
fait
personne
casser.
Personne n'a réussi à essayer.
s'est fait casser par un de ses collègues, alors que tout ce qu'il fait en général, le faire rentrer l'accusé, c'est pas, c'est sympa, le tandem, c'est très très bien, je vous le conseille vivement, en attendant le prochain. En 3 mois, évidemment, hein. Et on repasse à Mindus.
Ouais. Avec donc en télé-réalité, outre donc Pam en toute liberté, Victoria Silvstedt et Pas facile d'être Denise Richards, on a également le fabuleux destin de Kimora. Tu sais qui est Kimora?
Non, mais Thomas adore
Denise
Richards.
Oui, là. Et on a également l'incroyable famille Kardashian. Ouais, est-ce que tu sais qui est la famille Kardashian?
Non, mais ils portent bien leur nom.
Ils doivent bien mériter leur nom,
et
j'ai l'impression.
Également, là, vous connaissez les girls de Playboy. Elles sont à sa...
Non.
Cinquième ou sixième saison, tranquille.
Et non, pas les girls, non. Putain, le toucher, merde.
Oui.
Et ça, passe,
sport, merci,
et ça passe même par la même boîte de prod qui fait la télé-réalité de Snoop Dogg, marié, 3 enfants. Hein, donc, vous voyez un petit peu, les chemins se rejoignent. Mais il y a quand même du bon, on va dire, de temps en temps sur iTélé. Si on accepte le format... Bah non, pas du tout. Hein. Si on accepte le format, c'est surtout le samedi soir avec une thématique, on va dire, plus enquête policière, meurtre, crime, serial killer, en veux-tu, en voilà. C'est vachement bien. C'est dans les enquêtes d'Hollywood Stories. Alors ce soir, c'est les maris tueurs à partir de 20h35, suivi de 21h25 Hollywood Extrême et à 22h15 d'autres enquêtes d'Hollywood Stories qui sont généralement un peu plus gratinées que les premières parce que bah elles passent à un horaire un peu plus tardif et c'est vraiment des fois on tombe sur des bons trucs. Bon, c'est toujours un petit peu la même mise en forme, hein, c'est-à-dire qu'il y a très souvent rediffusion, répétition d'images, que ce soit des extraits d'archives,
bah oui,
des extraits de photographiques.
C'est prévu pour une chaîne qui passe énormément de spots publicitaires, donc toutes les 7 minutes, vous avez la répétition, le résumé.
Voilà.
Et maintenant, attention à ce que vous allez voir, et la répétition
mais
et
sinon,
le résumé.
Sinon, pas mal.
C'est un peu lourd des fois.
Il y a des trucs qui sont pas mal quand même, concernant les serial killers, donc samedi dernier, c'était assez intéressant.
Sachant que IN, la version française n'était pas basée en France, donc ils faisaient autant de coupures publicitaires qu'ils avaient le droit, puisqu'ils étaient basés en Angleterre pour la version française. Ils ont abandonné ce format parce que 1) les publicitaires suivaient pas, 2) le public non plus. Donc il y a de la joie.
Il y a de la joie également avec cette dernière chronique, c'est les séries B, Z à gogo sur la télé. Alors tu vas voir, il y a même des mecs qui font de tout et n'importe quoi. C'est le cas de Philippe Girotte, qui avait déjà fait un film avec des requins ou un truc comme ça, quoi. Là, c'est un film avec des avions de chasse hypersoniques ce soir sur 13ème
rue. Qui sont tueurs, assassins, vampires et lycanthropes.
35 avec Adam Baldwin, Amanda Reyn et Michael Keaton.
Mais c'est quoi un film de série B sans un Ferrer Baldwin, hein, d'après vous?
Ah ouais, mais là non, là, c'est Adam, c'est celui qui ressemble pas aux autres, quoi.
Oui, mais il y a toujours un Baldwin qui traîne.
Même ceux qui sont pas de la famille maintenant, c'est dur. Ce soir sur TF6 également à 23h20, alors là, celui-là je vous le conseille, c'est vraiment très bien, La loi du samouraï de Sam Furstenberg, moins 12 quand même, avec David Bradley. David Bradley, tu connais?
Peut-être.
Ah bah quand même, John Fujioka et Marc Dacascos.
Je connais Marc Dacascos plutôt.
Valérie Trapp, le film date de 89, hein, donc un Dacascos pas tellement connu à l'époque de ce côté-ci de l'Atlantique, tu vois. Quoi. Sinon, il y a également AB1 qui vous propose ce soir à 20h45 un dollar pour un mort de Gene Quintano avec Emilio Estevez, William Forsythe, Howie Long et Ed Lauter. C'est du bien bourrin, mais ça fait du bien. Demain sur Energy 12, un seul film mais qui peut s'avérer assez intéressant, True Blue, un flic à l'épreuve, à 20h40 de J.S. Cardone avec Tom Béranger, Laurie Euring, Pamela Gidley et Soon Ho-taek. Aha. Sur 13ème rue également demain soir à 22h40. Alors celui-là, c'est une daube que tu le crois pas. Armé et dangereux, moins 12 de Kurt Ross en 99 avec Billy Rick, Ice-T, Luke Perry, Richmond Arquette. Ouais. Mais alors c'est assez n'importe quoi. Peut-être pas autant n'importe quoi que quand même le film qui est le roi de toute cette série. De toute cette sélection, Black Mask 2 de Troy Ark, si le seul, l'unique, si avec John Polito, avec mais laisse tomber quoi, dans le même genre mais pas aussi complètement azimuté, lundi prochain sur CNFX à 21h Free Jack, le film de Geoff Murphy. On a oublié qu'il a fait ce film en 92 avec Emilio Estevez et Mick Jagger, si, rappelle-toi. Ah oui, oui. Mais ne rigole pas.
Oui, oui, Mick Jagger, c'est un de ses... Je crois qu'ils ont ce film, fiction, je parle.
Et il est crédible en plus, quoi. Il est assez crédible, quoi, on va dire.
Il fait quoi, les lèvres de la mort?
Bon, bah, il faudra que tu regardes. Donc c'est Free Jack, lundi sur Cinéfix à partir de 21h. Mardi, on a Léviathan sur NT1 à 22h20 de Patricia Arrington avec Kathleen Le Guay, Doug Swander et Matt Holly. Alors là, laisse tomber, c'est pas la peine. Mais par contre, un grand classique, un énorme classique sur 13e rue. Mardi prochain à 20h45, Aigle de Fer de Sidney J. Fury en 86 avec Lou Gossett Jr. et Jason Gedrick, ainsi que Tim Thomerson, bien sûr. Non, ce classique, ah ouais, ouais, mais si, histoire d'avion, là. Mais si, attends.
Non, mais il y a eu des suites.
Bon, si ouais, mais ils sont allés jusqu'au 5, au moins. Au moins jusqu'au 5, Aigle
de Fer. Mort de rire quand
je voyais les jaquettes. Et à chaque fois, par Sidney J. Fury. Je crois que les 5 ont été faits par Sidney J. Fury, en plus, quoi. Mais celui-là, c'est quand même le mieux, hein. C'est le, on va dire,
c'est
le
premier. Ils avaient encore du budget.
Alors, j'ai également, mardi prochain, sur Comédie, à 22h35, on n'est pas sorti de l'auberge. De Max Pécasse avec Jean Lefebvre,
oh, non, pitié.
Bernadette Lafont, Georges Belair.
Oh, c'est cool. Non. Si, on va exploser le score de Narnarland là.
Ouais. Également encore un Philippe Girotte là et qui parle non pas de crocodile mais de requin me semble-t-il. C'est Dark Waters mardi prochain sur
Sci-Fi. C'était celui-là que tu cherchais tout à l'heure.
non, il en a encore fait d'autres. Une série L'attaque des requins tueurs. Également, il a fait. Mais là, je crois que c'est des crocodiles justement. C'est pas des requins ou c'est le contraire. Dark Waters, donc de Philippe Girotte en 2003 avec Lorenzo Lamas et Simone McKinnon. Ouais, Lorenzo Lamas.
Ah, bon, bah, oui, hein, c'est tous. Tu me cites tous les depuis tout à l'heure, les Emilio Estevez, les Dacascos, etc. Ah, bah, toute la crème de nos vieilles séries.
Et c'est pas fini. Mercredi prochain sur NT1 20h45, The Substitute. 4.
Non.
Robert Adler avec Treat Williams.
Non, c'est Treat Williams, oui, parce que Treat Williams, c'est un sous Tom Berenger, en général.
Voilà, ouais. Non, mais il est vachement bien, Treat Williams.
Sauf dans Un cri dans l'océan, où c'était vachement bien.
Il est bien dans pas mal de films. Si. Et il y a également G. Everhart.
Il est bien dans pas mal de films qui ne sont pas bien.
Et
c'est son valeur. Non, ça dépend des films. Bon, ça dépend.
Ben ouais. Alors là, un petit peu de rigolade sur Energy 12 mercredi prochain avec à 20h40 Air Force 2.
Tu n'as pas connu Le Proviseur
de Brian Trenchard Smith
sur AB1
avec Marielle Hemingway, Jill Bennett et Sidney Jackson, suivi à 22h20, et celui-là vous allez regarder à mon avis, c'est Airborne, un film de Julian Grant. Il n'écoute pas, tant pis pour lui, de 98, soit juste, je crois, un petit peu avant que Julian Grant se mette à tourner sa fameuse série des Robocop. Voilà. D'accord. Donc là, ce sera l'occasion de goûter sur place ce que vaut ce monsieur dans le monde impitoyable du téléfilm. Un téléfilm donc réalisé en 98 par Julian Grant, Airborne, avec Steve Guttenberg, Sean Bean, Kim Coates et Colm Feore. Attends, c'est quand même pas mal, hein. C'est une série, hein, qui s'appelle Airborne, une série de téléfilms à l'instar de Robocop, donc de ce qu'il a fait avec Robocop. Et là, cet épisode s'appelle Commando d'élite. C'est mercredi prochain sur Energy 12 à 22h20.
J'aime beaucoup Sean Bean, je trouve qu'il est très sous-estimé.
Ouais, Sean Bean, à l'aise. S'il y a Sean Bean, faut regarder, de toute façon.
Jeudi
prochain sur NT1.
Oh
ah ouais, mais c'est le niveau, hein, de toute façon.
Oui, j'ai vu qu'il descendait, oui.
Sur NT1, à 22h50. Le classique.
Mais c'est vrai qu'il est vachement bien. Je l'ai revu dans la Diamond. C'était un film avec la blonde qui parle aussi bien en anglais qu'en français, là. Jodie Foster,
voilà.
Voilà.
Ah bon, j'ai eu peur que tu aies qui me sorte.
Non, tout bien, tout honneur. Et c'est Flight Plane ou un truc comme ça.
Flight Plan, ouais.
Et avec Sean Bean en tant que pilote de l'avion.
Ah bah normal, hein.
Bon, ensuite.
Ensuite, jeudi, oui, sur NT1 à 22h50, Arachnid de Jack Shoulder avec Chris Potter et Neos Asensis. Sur 13e rue, jeudi prochain également à 23h, Black Dawn, il en fallait un, c'est celui-là d'Alex Grusinski en 2005. Avec Steven Seagal, mon gars.
Ah merde.
Tamara Davis.
Le Steven.
Steven, bah t'en as un juste après, là, avec Sifi qui vous propose le jeudi prochain à 20h45 Planète Raptor de Gary Jones en 2007 avec Stephen Bauer. Rappelez-vous Stephen Bauer. Mais si.
Non.
Éteins la lumière. Non, ça c'est Alex Bauer.
Dans le Palma.
Mm-hmm. Oui, dans lequel je suis pas très fan de Palma.
Fantôme de l'opéra.
Non, le
Scarface. Hein.
Scarface.
Oh merde.
Stephen Bauer, merde. Alors, Musetta Vander également, Peter Jason et Vanessa Angel.
Dis-moi, t'as pas sorti quelqu'un de la famille Arcade dans le lot là?
Attends, il y avait Richmond avant.
Il y a Richmond Arcade, il fait vraiment partie de la fratrie Arcade.
Bah oui. Bah alors, qu'est-ce que tu crois? Eh ouais, ils sont nombreux et encore tu les as pas tous vus. Jeudi, c'est tout pour jeudi. Vendredi prochain, alors là, c'est quand même là vendredi prochain,
c'est
vous êtes gâtés. Avec sur RTL9 à 20h45, le Richard Fleischer un peu pourri qui s'appelle Kalidor avec Arnold Schwarzenegger,
yes.
Brigitte Nielsen et Sandal Bergman sur TF6 en deux parties, c'est-à-dire bah, vous fadez la soirée entière, 3 heures de l'antre de Frankenstein. De Peter Werner en 97 qui n'a rien à voir avec le mythe de Frankenstein mais plutôt une histoire de serial killer avec Adrian Pasdar, Terry Polo, Greg Wise et Miguel Sandoval. Et sur Cinéfix, là c'est vraiment un film qui mérite tout à fait de figurer dans cette liste, Donjons et Dragons,
ouais,
à 21h
avec Solomon,
non, Jeremy Irons.
C'est Jeremy Irons, je confonds chaque fois.
Mais sinon, vendredi prochain, et là c'est pas de la série B mais c'est vraiment du grand, du beau, du magnifique, certainement le meilleur de sa carrière, spécial Pasolini sur Ciné-Cinéma Classique.
Oula.
À 20h45 vendredi prochain, les 1001 nuits, suivi de Salo, les 120 journées de Sodome à 22h55 et du Décaméron à 0h50, donc respectivement de 74, 75 et 71 pour les dates de sortie de ces Pasolini, visible vendredi prochain donc sur Ciné-Cinéma Classique.
C'était l'émission numéro 181 du supplément Week-end sans Thomas. JB, je ne sais pas s'il pourra faire un résumé. C'est la dernière fois que vous nous retrouvez dans ce format d'écran. La semaine prochaine, on passe en 16/9e, si tout va bien. JB, je
donc,
t'en prie.
Donc, dans un bloc, ils ont manqué tout ça.
Oui, ouais. Heureusement, grâce à la diffusion déférée, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission et aussi retrouver des chroniques écrites, fouiller dans les archives, jouer des quiz stupides.
D'ailleurs, on ne sait toujours pas qui...
Bon, je vais les lancer, je vais le lancer, puis voilà. Okay.
Bon, laissez vos commentaires, posez vos questions, n'hésitez pas, il suffit d'aller sur le site web supplementweekend.fr, pas de point .fr, pas de tiret, etc. Vous écoutez FMR sur 89.1 MHz.
Sinon, cherchez supplément week-end, hein, ça marche. Hein.
Nous sommes en direct, en alternance avec Booster FM et en continu sur www.radio-fmr.net. Dans le prochain épisode, Thomas chez les Ch'tis, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence.
Ouais, mais ça, c'est ma réplique. Ah. T'es bafoué dessus, c'est pas chouette.
Ben voilà.
Alors, ciao, bye bye. Je vous laisse avec des ça, plus. Ciao, merci, JB.